Bonjour, c'est Anne-Elisabeth. Vous écoutez C'est à vous la suite, un podcast de France Télévisions. Bonne écoute.
C'est à vous en direct jusqu'à 20h55 avec toute l'équipe. Émilie, Pierre, Patrick, Mohamed, Mathieu et Cédric Béchade, le chef du relais château, l'auberge basque, c'est à Saint-Pé-sur-Nivelle, en Pyrénées-Atlantiques. Tout à l'heure, vous avez parlé de chipiron, mais je vois un gros boudin noir dans cette poêle.
Vous avez trouvé le trompe-l'œil, comme c'est une recette traditionnelle du Pays basque, et qu'on aime, et moi je me suis enraciné là-bas, j'aime cultiver la tradition. En fait, on a fait un boudin en trompe-l'œil de chipiron à l'encre de sèche, en fait.
Ah,
je ne vous ai pas tout dit.
Ça, c'est du chipiron à l'intérieur.
Exactement, 100%. 100% chipiron. On a remis des morceaux. Et quand on va le couper tout à l'heure, ça va ressembler à un boudin. On s'y trompe.
Ah oui, là, c'est un sacré trompe-l'œil. Hein. Et il n'y a pas que sur le chipiron où vous avez fait un trompe-l'œil, parce que j'ai confondu les topinambours avec des poires.
Voilà, mais ça, c'est vrai que ça peut ressembler. Et ça, c'est des chips de chipiron. Voilà, pour retrouver le côté caramélisé du chipiron. Et j'ai plus qu'à cuire les rouelles ici, sans matière grasse. C'est une petite astuce de cuisson. Sinon, la matière grasse fait bouillir.
Notre chef qui fait du trompe-l'œil en cuisine. Merci beaucoup, Cédric. À tout à l'heure pour le dîner. Il est depuis plus de 20 ans l'écrivain français le plus lu dans le monde. 50 millions d'exemplaires vendus, 23 romans déjà traduits dans plus de 50 langues. Autrement dit, plusieurs tours du monde, un paquet de tapis rouges, un nombre incalculable de poignées de main et beaucoup, beaucoup, beaucoup de dédicaces.
Monsieur Marc Lévy.
Il partait pas mal en Russie, on est parti ensemble au Vietnam, on est parti au Japon, on allait beaucoup au Liban.
Vous savez combien de livres vous avez signés de ces deux livres ?
Une vingtaine de rencontres par an, ça ferait quoi? Ça ferait 6 000. 6 000 par 20 ans, ça fait quoi ça? 6 000, 120 000.
Le quotidien et le parcours de Marc Lévy au corps d'un documentaire passionnant disponible sur MyCanal, alors que sort en librairie son 24e roman, Éteignez tout et la vie s'allume. Marc Lévy est notre invité ce soir.
Bonsoir.
Bonsoir, bonsoir Charles. Bienvenue sur le plateau. C'est
merci.
À vous, ravi de vous accueillir. Voilà. Voici toute
bonsoir,
l'équipe.
Bonsoir.
Bienvenue.
Bonsoir.
Là, pardon.
Je commence.
Bonsoir. 120 000 livres signés depuis 20 ans, c'est une fourchette basse. Ça, c'est un calcul.
Ah, je ne sais pas du tout.
C'est ce que vous expliquez dans le documentaire dont on va ne voir.
Ah oui. Oui, mais, oui, alors écoutez, c'est possible. Je ne sais pas du tout.
Vous n'avez jamais songé à vous munir d'un autopen? J'ai fait la découverte de cet instrument la semaine dernière. C'est ce qu'a utilisé Bob Dylan pour dédicacer en masse ses romans. Ça s'appelle un autopen, c'est une signature électronique, une machine à signer. Vous n'avez jamais pensé à vous en munir?
Je ne suis pas sûr que les lecteurs aient beaucoup ça.
Eh oui, oui.
Non, je n'ai jamais pensé, même pas que ça existait. Non, écoutez, c'est... En même temps, c'est mon métier d'écrire, donc...
Bon. Oui, ce serait un comble d'arrêter d'écrire et de dédicacer vos livres. On découvre donc votre quotidien de rockstar, victime du dédicacer le beau dans ce documentaire, mais aussi celui de l'écrivain qui travaille tous les jours à la rédaction de ses romans, que votre épouse compare à des grossesses. Environ 9 mois de gestation et un accouchement, à l'exception peut-être de ce dernier roman, Éteignez tout et la vie s'allume, écrit en 7 semaines seulement. Il a surgi plus rapidement que les autres.
Oui, ça m'est arrivé 2 fois dans ma carrière, une fois avec Le voleur d'ombre et une fois avec celui-là. C'est des romans imprévus, je n'avais pas prévu de l'écrire, et puis je me suis mis comme ça à écrire, mais sans avoir l'idée que j'étais en train d'écrire un roman, juste comme ça, pour, comme un chanteur peut avoir envie de chanter sous la douche, vous voyez, et puis tout à coup il se dit « tiens, une petite mélodie ». Et puis je me suis fait attraper par les personnages et...
Au point de devoir passer 10-12 heures par jour avec eux, quand vous ne pouviez plus vous en passer.
Non, puis j'avais... comment dire, j'étais bien, vraiment j'étais bien avec eux. Vous savez, je dis ça en toute humilité, il y a un moment dans la vie où on passe un certain âge et puis bon, il n'y a plus personne à qui prendre dans ses bras. Alors vous écrivez un livre et puis c'est le livre qui vous prend dans ses bras. Et c'est juste un moment de tendresse dont vous avez besoin. Et voilà, et il est venu comme ça, il est né comme ça, ce roman. C'est deux personnages qui m'ont apporté à moi un moment de tendresse inouïe.
Deux personnages qui se rencontrent sur le pont d'un bateau. au cours d'une croisière.
Mais qui dure très peu de temps, la croisière en elle-même. C'est une rencontre, oui.
Sur ce pont de bateau. Et vous renouez avec le romantisme après une trilogie, une saga d'espionnage qu'on avait adoré d'ailleurs.
Je vous dis que c'était tellement pas prévu. Alors peut-être que les 3 ans d'investigation pour écrire la série 9... parce que bon, ça a été un. Enfin, ça plonge forcément dans un univers, vous voyez, qui est beaucoup plus dur. Ça pèse hein, d'écrire une série comme Neuf, qui est très ancrée dans la réalité et où les personnages de fiction ne sont pas des personnages de fiction. Là, je vous dis, il y avait vraiment un besoin de douceur, un besoin d'amour, un besoin de tendresse et puis surtout un besoin de. Comment vous dire, d'être avec des personnages qui font du bien, des gens qui sont, ils ont leurs failles, ils ont leurs fragilités, et puis c'est aussi c'est une histoire. On est dans une période, vous savez, où on n'arrête pas de vous dire ce qu'il faut manger, ce qu'il faut boire, ce qu'il faut faire, comment être mieux, etc. Mais en fait, il y a un moment où, s'accepter comme on est et puis se regarder. Je crois qu'en fait, l'âge qu'on a, la beauté ou la laideur qu'on a, on la découvre dans le regard de l'autre. On est vieux ou jeune dans le regard de l'autre. On est désirable ou indésirable dans le regard de l'autre. Et pas. Alors, comme on vit une époque très individualiste, de selfie, de machin, on croit que c'est son regard sur soi-même, mais c'est pas vrai. C'est la rencontre de deux êtres humains qui sont finalement partis dans un voyage qui a des raisons, chacun a des raisons très différentes. Et puis, il y a un lâcher-prise, hein, et ils se regardent, et il y a une sincérité chez Jérémy qui est due à sa jeunesse. Et puis, il y a cette femme Adèle qui a fait la promesse d'être heureuse, mais qui en a marre de jouer la comédie du bonheur. Et tout à coup... elle renaît dans le regard de cet homme, et lui, qui est un homme en devenir, il devient dans le regard de cette femme. Et c'est... Voilà, c'est... Alors oui, c'est très romantique, mais je crois que ça peut être aussi simple que ça, d'être heureux, finalement.
Mmh. Et éteignez tout, la vie s'allume.
Oui,
titre emprunté à Sylvain Tesson.
Non, c'est pas exactement ça, mais comme je suis très, très... J'ai une obsession avec l'honnêteté. Un jour, dans une interview du Monde, hein, Sylvain Tesson, le gros titre de l'interview, c'était « Éteignez tout et le monde s'allume ». Alors lui, il faisait référence au fait qu'on coupe les portables. Mais cette phrase, elle m'est toujours restée, je la trouvais belle. Hein, pour faire une référence à la musique, comme tout à coup, vous entendez un accord et vous vous dites « Oh, c'est tellement beau, ça ». Et ce titre, il est venu à la fin du livre. C'est-à-dire que la dernière phrase, je ne peux pas spoiler, mais il joue un rôle important. Et donc, j'ai voulu, évidemment, le remercier pour avoir inspiré le titre, mais ce n'est pas exactement ça.
Oui, c'est à la sauce Marc Lévy, quoi.
Oui,
c'est
oui.
C'est le talent qui donne le titre de ce 24e roman. Vous restez avec nous parce qu'on va... On va aussi voir beaucoup d'extraits de ce documentaire qui est passionnant. Mais là, tout de suite, c'est l'Info Express de C'est à vous.
Et on va parler ce soir d'une joueuse de tennis qui, cette saison, a enchaîné les victoires 36 pour 9 défaites seulement. En 11 mois, elle est passée de la 74e place à la 4e place mondiale. Et il y a presque un mois, jour pour jour, le 8 novembre dernier, elle a remporté le Masters de tennis féminin au Texas. Première Française à remporter ce tournoi depuis Amélie Mauresmo.
Ça sort ! Ça y est ! Caroline Garcia s'impose en 2 manches et remporte le Masters 2022, 16 ans après Amélie Mauresmo. Elle est sur le toit du monde sur ce match-là. Elle n'est pas numéro 1 mondial, mais elle est la championne du Masters.
Oh, les larmes, le bonheur, la joie de la Française.
Bonsoir. Bravo. Caroline Garcia. Bonsoir. Félicitations, on est très heureux de pouvoir enfin vous féliciter pour ce titre. Vous étiez sur le toit du monde, disait la commentatrice de ce match, c'était le cas ?
Oui, c'est vrai que c'est un des énormes tournois, on va dire, de la saison. Et c'était le dernier, c'est le plus gros de ma carrière et ça représente énormément après des années un peu de galère. J'ai commencé l'année bien loin et... Jamais j'aurais pensé finir là et finir
quatrième. C'est le titre le plus important de votre carrière ?
Ouais.
Ouais.
En simple, oui, c'est le plus important.
Le monde du tennis et les supporters français ont admiré votre progression cette année, je le disais, de la 74e à la 4e place mondiale. 8 victoires face à des joueuses du top 10. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu un déclic, un changement?
Il s'est passé que déjà, physiquement, j'ai retrouvé, on va dire, la forme, que j'ai eu beaucoup de blessures ces dernières années. Et c'était devenu dur de jouer au tennis, de m'entraîner, de les supporter. J'ai eu une coupure pour soigner justement ces pépins qui m'ont permis aussi de me rendre compte à combien j'aimais le tennis, combien j'aimais oui. faire ça.
Parce qu'il y a un moment donné où vous n'aimiez plus le tennis.
En fait, les blessures, la douleur physique et la douleur qui va avec étaient devenues tellement dures à gérer que j'y arrivais plus et c'était vraiment associé au tennis. Et on a pris du temps pour vraiment essayer de me soigner, revenir en pleine forme ou du moins dans un niveau de douleur d'un athlète. 3 sur 10, c'est raisonnable. et je me suis rendu compte que j'aimais faire ça, que j'avais envie de jouer mon style de jeu, de l'assumer pleinement, de vraiment aller vers l'avant, me libérer. Et ça m'a fait du bien. Ouais.
Y a les douleurs physiques dont vous parliez, mais pas seulement, parce que d'ailleurs vous avez partagé avec les fans tout au long de l'année vos nuits blanches, vos crises d'angoisse, de boulimie, des larmes seules dans votre chambre d'hôtel ou sur des cours de tennis, et vous parlez quand même de la plus belle saison de votre carrière.
Ouais,
parce qu'il y a eu la victoire au bout, quoi.
En fait, y a eu des moments difficiles, c'est sûr, mais j'ai beaucoup appris sur moi-même en tant que femme, en tant que joueuse. Justement, cette coupure, ça m'a permis de me rendre compte que j'avais cette passion pour la balle jaune, pour le jeu, j'avais en dehors, je suis la personne que je suis, et sur le court, il fallait que j'arrive à imposer mon style de jeu, imposer ma présence physique, aussi être sonore aussi sur un court. Et des fois, en fait, quand je voyais ces images et ces vidéos, j'avais du mal en fait à m'identifier à cette personne-là.
À vous reconnaître, quoi.
Ouais, à me reconnaître.
Être sonore, ça n'a pas hésité à...
Ouais, voilà, à s'imposer, en fait. Et des fois, je ne me reconnaissais pas trop dans cette personne-là, par rapport à la personne que je suis en dehors. Et au fur et à mesure, je pense que c'est la maturité. Je me suis rendu compte que c'était comme ça aussi que j'arrivais à imposer mon jeu. J'ai plus à assumer cette deuxième partie de moi, on va dire. Ouais.
Alors Caroline Garcia, ça va sûrement vous faire sourire. On a retrouvé une archive qui date de 2010. Vous aviez 16 ans seulement, on est au début de l'année 2010, et vous parliez du tennis comme de votre futur métier.
Ok.
Depuis un an et demi à peu près, je vois vraiment que je peux en faire mon métier, donc ça fait plaisir. Parce qu'en plus, c'est un beau métier. Hein. J'ai un bon encadrement, j'ai un entraîneur, j'ai souvent un sparring, et j'ai un entraîneur physique. J'ai aussi un kiné qui me suit, donc c'est plutôt bien pour l'avenir, et puis pour le niveau que j'ai pour le moment, c'est bien, ça suffit largement. Je vais devenir top 10 chez les filles, ça serait bien. Puis gagner un grand chelem, évidemment.
Top 10 chez les filles.
Ouais, c'est clair, c'est fait.
Maintenant, on va faire top 10 chez les garçons.
Ouais, vous allez les surpasser.
En tout cas, cette année, on vous attend sur le deuxième objectif, le grand chelem. En Australie ou à Paris, peut-être?
Oui, y a 4 chances l'année prochaine. On va voir laquelle. En tout cas, c'est le but. C'est vraiment le prochain challenge qui se présente. C'est vraiment un beau challenge. Et voilà, on a repris l'entraînement vendredi pour s'y préparer. C'est aller vite, on va dire, les vacances, etc. Mais j'espère c'est... avec cette victoire au Masters, ça concrétise un peu ce rêve et cet objectif pour dire que c'est possible, quoi.
Je sais que vous étiez contente d'être là pour nous parler de cette victoire au Masters, mais aussi d'être aux côtés de Marc Lévy. Voilà, vous étiez très heureuse. Donc, je vous offre de la part de Marc Lévy le 24e
Merci.
Roman. Si vous avez encore un peu Merci. De temps, on va la reprise
vous
des entraînements.
Vous n'avez pas une balle de tennis sur vous. Je peux vous poser une question. Ça arrivera jamais qu'on fasse des matchs, les filles contre les garçons?
Je pense que c'est dur, en fait. Enfin, une joueuse pro top contre un joueur pro, c'est dur parce que par rapport aux qualités physiques, déjà, ils servent beaucoup mieux que nous et ils couvrent en fait le terrain beaucoup mieux que nous. Et du coup, ça rend vraiment top 10 femmes contre top 10 hommes, c'est compliqué, quoi. Nous, on ne va jamais réussir à faire un coup gagnant contre eux.
Ah oui.
En fait, on propose un jeu un petit peu différent. Eux, nous, on joue plus sur les prises de balles. Généralement, on est vachement plus dans le terrain. On prend beaucoup plus tôt. Et eux, c'est plus tactique. C'est un petit peu différent.
Mais contre Momo ou moi, je pense que vous pouvez prendre...
Ouais, ça va parler du top 10.
Il y a des exhibitions, il y a des exhibitions en revanche.
Ouais. Oui, bah, après, il y a des tournois mixtes, enfin, des doubles mixtes, etc. Mais c'est vrai que ça joue pas exactement sur les mêmes critères.
Ouais. Bravo, chère Caroline Garcia.
Merci beaucoup.
Rendez-vous pour les prochaines compétitions. Vous savez que vous avez ici du soutien. Qui joue mal au tennis.
Mais qui encourage bien.
Mais qui est assis en tribune,
chacun
peut être
domaine.
Sonore, exactement. Merci beaucoup et bravo encore pour ce titre de quatrième joueuse mondiale. À très vite sur le plateau de C'est à vous. On garde Marc sur le plateau jusqu'à 20h55. Tout de suite, c'est le vu. Ah pardon, n'importe quoi, l'œil c'est pas Pierre. Le vu, c'est l'œil de Pierre. Comment j'ai pu oublier?
Bah oui.
Pas une balle dans le cours, moi.
Si vous avez vu Le Conformiste, ce chef-d'œuvre de Bertolucci, il l'a vu, et l'un des plus grands rôles de Jean-Louis Trintignant, vous vous souvenez peut-être qu'à un moment, il récite Jean-Louis Trintignant à Stefania Sandrelli les premiers vers d'un poème de Sandrard. Ils sont dans le train, tous deux, et il cite la prose du Transsibérien et de la petite Jeanne de France. 20 ans plus tard, Jean-Louis Trintignant, en 90, avait enregistré la totalité du poème en prose de Blaise Sandrard. Aujourd'hui, un livre-disque illustré, splendide et précieux, propose ce travail d'artiste, le texte du poème, illustré par Enki Bilal, et des musiques de Jean-Louis Murat. Écoutez Jean-Louis Trintignant.
En ce temps-là, j'étais en mon adolescence. J'avais à peine 16 ans et je ne me souvenais déjà plus de mon enfance. J'étais à 16 000 lieues du lieu de ma naissance. J'étais à Moscou, dans la ville des 1003 clochers et des 7 gares. Le train palpite au cœur des horizons plombés et ton chagrin ricane. Dis Blaise, sommes-nous bien loin de mon meurtre?
C'est en 1913 que Blaise Sandrard publie cette prose poétique racontant un voyage vrai et faux à la fois qu'il dédie aux musiciens et qu'il demande à Sonia Delaunay d'illustrer dans un livre géant qui dépliait, faisait 2 mètres. Il a été tiré à 150 exemplaires, ce qui faisait dire à Sandrard que déplié bout à bout, il faisait tous aussi haut que la Tour Eiffel. Aujourd'hui, les éditions du Maquis publient cette œuvre en édition numérotée. Il y a la voix de Jean-Louis, la musique de Jean-Louis Murat et les illustrations d'Enki Bilal.
Chaque vers recèle au moins une dizaine d'images. Donc c'est effrayant de se dire « je vais illustrer ». Donc on n'illustre pas, on installe une atmosphère, c'est ce que j'ai essayé de faire avec 2 illustrations d'abord. Et ensuite il y a un peu d'abstraction parce que c'est... Chacun se fait ses images en fait. Installer l'atmosphère du train, c'était un peu ça l'idée. Donc l'intérieur d'un train, sans être réaliste et anecdotique, hein, je n'ai pas été chercher de la documentation sur le Transsibérien de l'époque où Blaise Sandrard l'a pris, ou a rêvé de le prendre. Le jeune homme que je représente n'est ni Blaise Sandrard, ni Jean-Louis Trintignant, même si je voulais faire un mix des deux.
Sandrard apprécierait sans doute tout, cette réponse de Murat à sa dédicace aux musiciens, le talent de Bilal et puis la voix de Jean-Louis. Enki Bilal était d'autant plus touché et porté dans ce travail, comme il l'a expliqué à Myrtille Serre, qu'il a dirigé Jean-Louis dans son film Bunker Palace Hotel et qu'il savait que c'était le dernier projet de Jean-Louis Trintignant que Marie, sa fille, avait convaincu d'enregistrer Sandrard.
Je savais qu'il était en fin de vie, vraiment. Je l'avais vu peu de temps auparavant. Je l'avais fait écouter, réécouter, il n'avait pas entendu depuis très longtemps, ce poème qu'il avait dit en 90. Et il était très critique sur ce qu'il avait fait, comment il l'avait fait. Mais en même temps fier, je sentais qu'il appréciait vraiment de réentendre ça. Les grands comédiens, c'est ça leur art en fait, c'est de faire passer des émotions et effectivement tout un tas de choses. L'olfactif est présent, plein de choses comme ça peuvent être ressentis par le lecteur. Une belle voix, une magnifique voix peut emmener peut-être au-delà de la lecture.
Sandrard se demandait au début du siècle quand les pages d'un livre seront-elles sonores. Jean-Louis Trintignant l'a exaucé, lui qui a toujours aimé intimement lire de la poésie.
J'écris pas de la poésie, mais je lis beaucoup de poésie, j'enregistre de la poésie, je travaille, je corrige, je recommence. Il y a par exemple des poèmes que j'ai enregistrés plus de 800 fois. Je les efface, ça me plaît pas, je perfectionne un petit peu. Ceux que j'ai le plus travaillé, c'est Le Voyage de Baudelaire, Le Bateau ivre de Rimbaud, La prose du Transsibérien de Sandrard. C'est peut-être la seule chose finalement dans mon métier que j'aurais essayé de faire parfaitement.
Et ce livre Disque Parfait sort vendredi.
Merci beaucoup Pierre, merci beaucoup Caroline, à très bientôt.
Bravo.
Salut Mathieu, à demain. C'est l'heure du vu ce qu'il ne fallait pas rater hier à la télévision.
C'est la photo de cette Coupe du Monde pour les amoureux du ballon rond. Mbappé dans les bras de Giroud, le regardant dans le blanc des yeux après l'ouverture du score contre la Pologne hier. L'étreinte des deux attaquants français fait le tour du monde, Emmanuel Macron la retweet et la machine à parodie s'emballe. La complicité des deux coéquipiers devient une histoire d'amour.
C'est le but du but de Gilles Zidane.
Un moment titanique sans le tragique, quitte à brûler les étapes. Mbappé et Giroud, un duo au sommet.
Il me fait penser à un acteur porno.
Non, Eric, si.
Tu sais pourquoi? Parce qu'il est obsédé, il pense qu'à ça, c'est la mettre au fond. C'est le Rocco Siffredi de la surface de réparation.
Pourquoi dès qu'il y a 2 cm de neige quelque part en France, ça marche pas?
Ah oui, Oui, c'est souvent comme ça, quand il manque 2 cm, ça marche pas.
La condamnation aujourd'hui de Jean-Marc Morandini à 1 an de prison avec sursis, obligation de soins et inscription au fichier des auteurs d'infractions sexuelles. L'animateur a été reconnu coupable de corruption de mineurs.
Voilà la une, Morandini live en direct chaque jour pour vous montrer la réalité de ce qui se passe en France.
Nous avions quelqu'un qui avait organisé un faux casting d'un film qu'il voulait faire dont il n'avait acheté ni les droits, sans scénario, sans réalisateur, à son domicile et sans témoin, pour obliger un jeune homme à se masturber devant lui.
Ça va passer en appel,
en appel, mais dans un certain temps.
Le laisser, j'allais dire, continuer, alors que c'est précisément grâce à son métier qu'il a pu se rendre coupable de ses actes, je trouve ça problématique, mais c'est le problème de son employeur, de la crédibilité de l'information que désormais M. Morandini pourra diffuser, notamment lorsqu'il parlera des faits divers et éventuellement d'affaires de ce type, mais ça, je ne suis pas l'employeur de monsieur Morandini.
Norman, le célèbre youtubeur aux 12 millions d'abonnés, a été placé en garde à vue. Norman Tavo est interrogé sur des accusations de viol et corruption de mineurs révélées dans le cadre du mouvement Balance ton youtubeur. Ouverte en janvier 2022, la procédure concerne 6 plaignantes, 5 d'entre elles l'accusent de viol. L'enquête a été confiée à la brigade de protection des mineurs.
O André Kotler. Grande bomba.
Jour J pour le procès en appel de Nicolas Sarkozy. L'ancien président de la République et son avocat Thierry Herzog sont à nouveau face au juge pour l'affaire dite des écoutes. Nicolas Sarkozy avait été condamné en première instance à 3 ans de prison, dont 1 an ferme, pour corruption et trafic d'influence. Une décision sans précédent pour un ancien chef d'État.
Je suis blanc, je suis chrétien, je suis hétérosexuel.
Et il a continué à vider son sac tellement il n'en peut plus.
Je roule au diesel et je me chauffe au fioul.
Agressif.
Peigneux.
Derrière le calme apparent couve la contestation. Dans plusieurs villes d'Iran, dont la capitale Téhéran, des rideaux fermés, des marchés silencieux, des commerces à l'arrêt. Conséquence d'un appel à une grève générale de 3 jours lancée par les manifestants qui, au péril de leur vie, relaient ces vidéos.
Cette image à l'étranger, celle de Vladimir Poutine conduisant une voiture sur le pont de Kerch qui relie la Russie à la Crimée. Ce pont avait été partiellement détruit en octobre dernier par une explosion. Et puis ce soir, toutes les régions d'Ukraine subissent des coupures de courant.
Depuis ce matin, le pétrole russe importé par voie maritime est interdit en Europe. Embargo visant à tarir cette source de financement de la guerre. Des millions de barils en moins pour l'Union.
Depuis le début de la guerre en Ukraine, vous savez combien l'Union européenne a dépensé pour acheter du pétrole à la Russie?
Non.
67 milliards d'euros.
Ah ouais.
Pour vous donner le budget de la défense russe, c'est 60 milliards d'euros. Donc, vous voyez,
on les a financés.
Nous devons faire cette réforme. Et je vais vous dire pourquoi. Parce que si on ne la fait pas, on laisse le système de retraite par répartition en danger. Toutes les études sérieuses le montrent. Le comité de suivi des retraites l'a très bien montré.
Avec ce qui vous est arrivé, j'ai trouvé ça d'une injustice, mais en même temps, ça fait partie de la vie de nos métiers.
Nous sommes d'accord.
Comment ça va ?
Bon, on va pas trop mal, enfin...
Oui, il y a pire que
nous. Il y a pire, voilà, c'est ce qu'on se dit. Voilà.
Selon le dernier rapport du Conseil d'orientation des retraites, page 9, les résultats de ce rapport ne valident pas l'idée d'une dynamique non contrôlée des dépenses de retraite. Je l'ai déjà dit, mais je le répéterai autant qu'il le faudra. Prétendre que notre système par répartition serait menacé d'effondrement, c'est une fake news.
À l'âge de la retraite, aujourd'hui, à 62 ans, 25% des plus pauvres sont déjà morts. Donc non, tous les Français ne vivent pas plus longtemps.
Vous voyez, il suffirait d'augmenter très peu les cotisations, finalement, pour trouver ces 10 milliards. Ça serait pas... Mais aujourd'hui, on a un problème de pouvoir d'achat. Peut-être qu'on n'a pas trop envie de le faire maintenant.
Combien il faudrait augmenter, à votre avis ?
Il faudrait, c'est simple, il faudrait l'augmenter de 4 euros par mois. C'est pas beaucoup, hein ? Chaque année, mais chaque année, pendant 10 ans. Donc 4 euros la première année, après ça fait 8 la deuxième, etc. Et ça suffit pour financer les retraites. Vous voyez, on n'est pas en faillite.
Pendant ce temps, sur l'Instagram de Nabila, l'influenceuse fait visiter sa maison à Dubaï, décorée pour Noël. Franchement magnifique et tellement honteux à la fois, commente cet internaute. Dans les commentaires, elle est loin d'être la seule à trouver que Nabila vit dans un autre monde. Alors qu'en France, on parle crise énergétique et sobriété.
Marc Lévy, 38 ans, directeur d'un cabinet d'architectes, signe particulier via un conte de fées qui a commencé en octobre 2000.
Marc Lévy, 38 ans, directeur d'un cabinet d'architectes, signe particulier, vit un conte de fées. Un conte de fées qui a commencé en octobre dernier.
J'ai reçu un jour un manuscrit d'un premier roman sur mon bureau. J'ai lu d'une traite. J'ai ri, j'ai pleuré. Et quand j'ai demandé de rencontrer l'auteur, je lui ai dit tout de suite, vous savez, vous avez écrit un roman formidable. Je pense qu'il a un potentiel d'être lu dans le monde entier. Il m'a regardé, il pensait que j'avais pris un cachet, ou voilà, je fumais la moquette.
Un agent qui avait tout sauf fumé la moquette. Et si c'était vrai, paraît au tout début du 21e siècle, vendu à plus de 200 000 exemplaires, un best-seller qui allait devenir un blockbuster.
Yes, Mr. Spielberg.
I just think you've written one of the best stories I've ever heard.
Et donc, on tape la main.
Ce qu'on vient d'entendre, c'est la voix de Steven Spielberg sur votre répondeur que vous avez gardé précieusement dans votre musée, quoi. Tellement c'était fou d'entendre ce message-là.
En fait, c'est encore grâce à Susanna, c'est que l'appel avec Spielberg, il était... En fait, on devait parler avec des gens de la DreamWorks, mais j'avais aucune idée qu'on allait parler avec Steven Spielberg. Et il y a eu un premier appel, donc... Et puis bon, pour des questions d'intendance, on devait se rappeler une heure après. Et Susanna, elle a pressenti, elle s'est dit, c'est quand même pas tout... Donc elle a mis le dictaphone pour juste enregistrer comme un souvenir, quoi. Et bah oui, évidemment, j'ai gardé le moment où Steven Spielberg vous dit que vous avez écrit une histoire qui lui a plu, c'est... Bon,
oui, j'ai gardé. La meilleure histoire que j'ai jamais entendue, c'est ce qu'il vous dit, Steven Spielberg.
Oui, oui.
Il y a de quoi bégayer, quoi.
J'ai bégayé. Je bégaye encore, d'ailleurs.
C'était un succès extraordinaire, et si c'était vrai. Et pourtant, trois mois après la publication de ce roman, le public est dithyrambique, mais la critique parisienne ne vous épargne pas. Dans le documentaire, on entend les critiques du masque et la plume, mais vous expliquez qu'en fait, ils vous ont rendu service, ces critiques, qui étaient quand même très violents. Hein. C'était du Marc Lévy bashing qui est évoqué.
Oui, c'était du bashing. Mais oui, ça vous rend service, parce que finalement, tout ce qui vous ramène à de l'humilité vous rend service. Donc oui, ça m'a rendu service. Ça, c'était violent, hein, parce que quand vous avez fait l'objet d'un bashing, c'est toujours violent. Mais en même temps, bon, vous voyez, c'est pas la guerre en Ukraine et c'est pas les coupures d'électricité.
Bien sûr.
Bon, et donc, il faut toujours relativiser les choses. C'était violent pour mon fils aîné, qui avait 9 ans à l'époque, qui comprenait pas. Mais en même temps, ouais, ça m'a rendu énormément service. Ça m'a rendu service parce que...
Vous apprenez qu'ils avaient eu tort, déjà.
Alors, c'était pas pour leur prouver à eux, parce que, comment vous dire, quand il y a de la méchanceté gratuite, vous n'avez rien à prouver. Je crois que c'était plus pour le prouver à mon fils, le prouver à mes parents, le prouver... vous voyez, c'était parce que je savais aussi que mon père, ça le rendait dingue. Et ma mère, je vous en parle pas. Mais ça, enfin, ça, il avait cette sobriété, cette humilité de ne jamais le dire, mais ça lui faisait...
C'est injuste.
Et donc voilà, je voulais arriver à ce qu'il soit fier.
Dans ce doc, vous évoquez un livre qui tient une place à part dans votre bibliographie, Les enfants de la liberté,
oui.
L'histoire de Claude et de Raymond Lévy, jeunes juifs et résistants qui s'engagent au... Ils ont 19-20 ans, ils s'engagent au printemps 43 dans la résistance FTP Moy,
oui.
Main-d'œuvre immigrée sous la direction de Serge Ravanel, très grand résistant. Ils sont arrêtés, ils passent 7 mois à la prison Saint-Michel de Toulouse, et puis ils sont embarqués dans ce qu'on a appelé le train fantôme vers Dachau, qui est oui. Le dernier train accompagnant des déportés vers Dachau. Une évasion rocambolesque, ils démontent le plancher du train. Claude Lévy sera, c'est votre oncle, c'est celui qui aura réellement révélé au grand public la rafle du Veldiv en 67 dans un livre publié aux mêmes éditions que les vôtres aujourd'hui, Robert Laffont. Et Raymond Lévy, c'était votre père,
oui.
Vous l'évoquez dans ce doc.
Ça, c'est la médaille que mon père avait gravée sur une pièce de monnaie pendant qu'il était à la prison Saint-Michel à Toulouse. Oui, il y a toute la naïveté de la jeunesse, parce qu'ils avaient fait ces médailles au modèle des médailles des soldats américains, vous voyez, avec les petits trous au milieu. Il avait écrit « Il reste des Bastilles à prendre ». C'est la photo de police, de la fiche de police de mon père, quand il a été arrêté avant d'être torturé.
Ce qui est extraordinaire,
alors, c'est pas du tout. C'est drôle.
Non, ben non,
c'est pas c'est du tout mon père.
C'est pas lui.
C'est un Raymond Lévy qui a été PDG de Renault.
PDG de Renault.
Et, oui.
Alors, et alors, vous savez, c'est l'auteur de Schwarzenegger.
Oui, le jour où le PDG de Renault a
été... Non, il ne faut pas le mettre. Faut...
Non, mais voilà. Pour la petite anecdote, le jour où le PDG de Renault a été nommé, ils se sont trompés sur France 2 et ils ont mis la photo de mon père.
Ah, bah zut.
Et du coup, tous les copains de mon père l'ont appelé en disant « Mais qu'est-ce que c'est que cette nouvelle ?» Donc, c'en est un autre.
Voilà. Donc, c'en est un autre. Mais ce qui est extraordinaire, c'est que cette histoire de votre père et de son courage sous l'occupation et de son engagement, vous l'avez appris sur le tard parce qu'il ne voulait pas en parler.
Non, il ne voulait pas en parler. J'ai mis longtemps à comprendre pourquoi il ne voulait pas en parler, en fait. Et je crois d'ailleurs que je l'ai vraiment compris en écrivant ce livre. Enfin, quand j'ai eu sa réaction après avoir écrit le livre. La première explication, moi, ce qui m'émeut toujours quand je la raconte, c'est que un jour, comme ça, au milieu d'un de ces silences, il m'a dit, tu sais, la vraie victoire, elle a été longtemps après la guerre. Et non, pardon, j'arrive pas. Hop, on va passer à autre chose. Mais je crois que surtout, non, j'arrive jamais à raconter cette histoire. C'est une histoire qui m'émeut énormément. J'ai dit un jour à mon père, mais pourquoi tu m'as jamais raconté ça? Et il m'a dit, mais qu'est-ce que tu voulais que je te raconte? Donc déjà, je dis, bah, tu vois, quand même, tu vois, tu étais dans un des plus grands réseaux de résistance, tu as été un résistant de la première heure. Et il y a eu cette phrase magnifique, il m'a dit plus tard, la seule chose dont je veux que tu te rappelles, c'est que j'étais ton père.
Ouais.
Vous lui avez... Enfant, vous lui aviez demandé à votre papa, ça veut dire quoi être juif? Il avait eu cette réponse magnifique. Être juif, ça veut dire que si tu es à côté d'un noir qu'on traite de sale noir, tu deviens noir. Si tu es à côté d'un arabe qu'on traite de sale arabe, tu deviens arabe. Et d'une manière générale, à chaque fois qu'il y a quelqu'un qu'on persécute parce qu'il est différent des autres, toi, tu deviens aussi différent que lui. Sans cette différence, il y aurait chez vous sans doute moins de place pour l'imaginaire.
Mais je crois que sans cette différence, le monde ne serait pas en couleur. Et c'est pour ça que je ne comprends pas tous ceux qui sont, qui croient que la solution aux maux du monde ou aux maux du siècle se trouve dans la détestation de l'autre. J'entendais tout à l'heure ce type qui criait comme si c'était une gloire, vous voyez, qu'il était blanc, qu'il était catholique, et qu'en plus, il se chauffait au fioul. Alors, en plus, je ne vois pas le rapport.
C'était au meeting de Zemmour, hein, je précise, on l'a vu tout à l'heure dans
le jeu. Mais j'aurais envie de lui dire, mais vous construirez rien sur la détestation des autres. Ça n'existe, vous, haïr les autres, penser que tous nos problèmes sont ceux de la faute des autres, ça n'a jamais conduit qu'à la destruction. La différence, c'est toutes les couleurs du monde. C'est tout ce qu'il y a de plus beau au monde, d'embrasser la différence de l'autre, d'essayer de la comprendre. Oui, ça demande un peu plus d'effort, c'est plus difficile. Mais bon, alors, oui, mon père a été résistant dans une brigade de résistants qui s'appelait la Main-d'œuvre immigrée. Il a été torturé. Et c'est grâce à ce qu'il a enduré comme souffrance et à ce que tous ces jeunes, dont 98% sont morts en criant « Vive la France !» avec un accent étranger, ont enduré qu'un type peut aller dire des bêtises pareilles, mais qu'il est libre de les dire. Et ça, c'est magnifique qu'il soit libre de les dire, vous voyez, même si c'est des idioties racoleuses et un peu putassières. Donc, voilà. Non, ce que j'arrivais pas à dire tout à l'heure, c'est que mon père, je vais essayer cette fois-ci de le dire. Il m'a dit, tu sais, la victoire, on l'a gagnée longtemps après la guerre, parce que ils nous ont enlevé nos droits, ils nous ont enlevé notre identité, ils nous ont arrêtés, ils nous ont torturés, ils nous ont assassinés. Mais pour tous ceux qui ont survécu, on a réussi à aimer, on s'est marié et on a eu des enfants. C'est ça la victoire. Moi aussi, ça me... Bon. Et il nous a dit, la victoire contre la haine, c'est de ne jamais perdre cette parcelle d'humanité qu'on nous confie au début de notre vie. C'est ça, être un homme, c'est pas un acquis. Mais le rester toute sa vie, c'est un devoir. Et c'est ça qui est difficile. Et il suffit d'une seconde d'inattention. Il suffit d'une main qu'on n'a pas tendue. Vous voyez, il suffit d'un regard qu'on n'a pas voulu porter sur une femme qui est battue. Vous voyez, il suffit de ça pour perdre sa seconde d'humanité et de le regretter toute sa vie. Et voilà, donc c'est pour ça qu'il ne nous en a jamais parlé.
Merci beaucoup,
Marc. J'ai réussi à le dire.
Marc Lévy, Confidentiel, c'est un magnifique documentaire qui est disponible sur MyCanal. Éteignez tout et la vie s'allume, c'est chez Robert Laffont, c'est votre 24e roman. Et puis vous êtes venu avec la photo de vos enfants.
Ah non.
Parce que vous avez le trac en direct.
Oui, c'est vrai.
Regardez vos enfants, ça vous ramène à ce qui est essentiel. Et vous nous l'avez rappelé ce soir sur le plateau de C'est à vous.
Merci pour ça,
Marc Lévy.
Merci.
Vous restez avec nous dans un instant, Red Car sur la scène de C'est à vous, d'ici là, Zoé Bruno. J'étais à ça.
Je suis très fan.
J'étais à ça. La la li la la, la li la li la la.
Bah quoi, t'aimes pas quand je chante?
Ne m'oblige pas à répondre à cette question, ma chérie.
C'est marrant quand même, parce que l'autre soir j'étais chez Cédric pour l'anniversaire d'Eduardo.
Joyeux anniversaire! Joyeux anniversaire! Joyeux anniversaire, Eduardo! Joyeux anniversaire!
Il me saoulait, il voulait pas lâcher la note.
Et toi non plus, j'imagine, malheureusement.
Joyeux anniversaire!
Waouh! C'est bien mon cœur.
Et scabalibadabdab, scat scat, scat scap, scabalibadab, scabalibadabab, gâteau, scabalibadère, scabalibado, scabalibadouardo! Trop bien, non?
Oh. Ouais.
Mon Dieu, quelle misère.
Tu sais, Zoé, je t'ai entendu scatter. En fait, tu utilises très mal ta colonne d'air.
Ah oui.
Hein? Ah. En fait, vraiment, si tu... Voilà, il faut que tu vois, bien droite, sinon oui. Elle va t'en vouloir, tu sais. C'est ton instrument, si tu veux scatter.
Après, t'es pas obligé de scatter non plus. Hein.
Sois fier.
Tu te rends compte? La pourriture?
Ah oui, parce qu'il voulait t'aider.
Il voulait pas m'aider, il voulait m'humilier. Il m'a même proposé de me donner des cours de chant, gratuitement.
Mais c'est une enflure!
Ah ouais, il se prenait pour Natacha Saint-Pierre, hein, tout ça parce qu'il a fait une pauvre émission de chanteur. Et les Denigos, qui étaient en extase. Ah! Oh.
Non mais c'est vrai, ça m'étonne pas, hein, qu'il t'ait pris dans l'émission, parce que ta voix c'est comme du velours.
Alors en fait, je vous le dis, ça reste entre nous, mais ils m'ont dit que quand je chante, ça ouvre la boîte de Pandore.
Waouh!
Excusez-moi.
La boîte de Pandore. Ouais, non, mais carrément. Attends, puis en plus, j'ai lu une interview où ils disent que ce qui les intéresse, c'est pas les voix, en fait, c'est vraiment les drames. Alors, excuse-moi, c'est quoi, toi, ton drame, hein, Guillaume, on n'est pas au courant, hein, parce qu'on te connaît quand même assez bien. Je sais pas, t'as perdu tes parents quand t'étais petit dans un accident horrible de voiture, une maladie incurable. La boîte de Pandore, quoi?
T'avais mis dans le mille, évidemment. Eh ben, tu vois, t'as un certain talent, toi aussi.
En tout cas, il m'a plus reparlé des cours de chant. C'est dommage. J'étais à ça de savoir chanter.
Ha ! 2 ans après son mini-album La Vita Nueva, 4 ans après Chris et 8 ans après Chaleur Humaine, ce disque formidable écoulé à plus 1 million d'exemplaires, Christine and the Queen nous présente Red Car avec un nouvel album, Red Car, les adorables étoiles. Il est ce soir sur la scène de C'est à vous avec l'un des titres de l'album, Rien dire. Bienvenue, cher Red Car, sur la scène de C'est à vous, quand vous voulez.
Même si je ne suis pas toujours dans tes bras, il me semble que tu marches à côté de moi. Mes gestes ont pris la couleur de tes mouvements. J'y pense tout le temps malgré moi. Oh, on s'apprend et oh, on s'attend et oh, on se rend et sans jamais rien dire. Oh, on s'entraîne à ta dégaine. Oh, on s'aime et sans jamais rien dire. Toutes ces choses du monde qui nous traversent. Ces endroits où je pensais n'être pas, maintenant m'y voilà avec toi. Oh, on s'apprend, oh, on s'attend, oh, on se rend et sans jamais rien dire. Oh, on s'entraîne, oh, ta dégaine. Oh, oh, on s'aime et sans jamais rien dire.
Album Red Car, les adorables étoiles. Bonsoir.
Bonsoir, merci.
Bonsoir. On est ravis de vous accueillir à la table de C'est à vous.
Je suis très contente d'être là.
Nous aussi.
De m'inviter.
On est très heureux que tout aille bien et que vous puissiez partager avec nous ce repas qui est préparé par Cédric Béchade. Alors, ça ressemble à du boulin noir, mais c'est un trompe-l'œil.
Ah, d'accord.
Voilà, il me charge de vous dire qu'en fait, ce sont des chipirons tombés dans l'encre qu'il a reconstitué en faux boulin noir.
D'accord. Alors, c'est quoi les chipirons ?
Des encornés.
Des encornés, d'accord.
C'est ça.
C'est quoi déjà les chipirons ?
Des encornés.
Des encornés, merci.
Des encornés, ok.
Voilà, c'est basque, ça nous vient de basque.
Génial.
Du Pays basque, il manque des mots. Il faut, Red Car, que vous nous expliquiez cette nouvelle incarnation. Comment est né Red Car ? Comment est-ce qu'on peut présenter cette nouvelle incarnation ?
Alors, c'est un principe qui m'est arrivé, en fait. qui rythmait mes journées. J'étais tout seul à Los Angeles et je travaillais sur de la musique. Et je faisais des longues marches à Los Angeles tout seul, donc déjà rien que ça, c'était un peu particulier. Mais... Et je pensais beaucoup, je priais beaucoup en fait, voilà. Parce que j'ai perdu ma mère il y a quelques années et j'ai pour habitude de prier en pensant à elle souvent. Et aussi de prier l'archange Michael, qui est devenu un ange qui m'intéresse un peu. Et à chaque fois que je pensais et à elle ou à Michael, une voiture rouge passait. Ce que je trouvais très charmant, enfin ce que j'ai décidé de choisir comme un signe, parce que la vie est faite de choix. Et ce choix m'a fait du bien, en fait. C'était un choix poétique absurde qui m'a fait du bien. Et puis plus je concentrais mon attention sur ça, évidemment, plus il y avait des voitures rouges qui arrivaient. Et, je me suis dit que c'était un nom assez merveilleux, parce que c'est pas vraiment un nom, et c'est plus un... C'est plus synonyme d'espoir pour moi. Et c'est très enfantin, en fait, Red Car. C'est la voiture rouge aussi, donc voilà. Et je me suis glissée dans ce nom. Et ça va bien. Je deviens un peu rouge aussi, parce que ça va avec qui je suis, comme je suis timide. Voilà, tout est très cohérent, hein, finalement.
Oui, avec la cravate rouge et le gant rouge.
Ah oui, oui, tout est très...
En tout cas, chacune de vos prestations est toujours incroyable, avec une scénographie, une présence. Enfin, c'est toujours
On va voir quelques images, puisque vous avez présenté ce projet au Cirque d'Hiver.
Ah oui, oh.
Et sur la façade du Cirque d'Hiver, pardon, je vous ai coupé dans votre élan.
Ça m'a donné
sur la façade, un écran proclame « Pop music is dead, long life theater ». La musique pop est morte, longue vie au théâtre. C'est une façon de revenir à vos premières amours, c'est-à-dire l'art dramatique, la danse.
Ouais, c'est vrai. Mais aussi, c'est un peu provocant, parce que j'ai trouvé beaucoup de réconfort dans le théâtre, en fait, ces derniers temps, même en tant que musicien. Parce que justement, avec le Covid, avec la déconnexion des uns et des autres, avec la surabondance des images aussi qui sont, tu vois, qui nous bombardent toutes les 5 secondes, j'en revenais à qu'est-ce que l'essence pour moi de la musique et même du rock'n'roll, ce que je commençais à travailler comme essence. Et pour moi, c'est la physicalité d'un performeur. Donc c'est le théâtre au sens, on vient tout donner sur une scène, on vient transpirer sur une scène et en fait, on n'est que le vecteur d'une émotion que le public peut aussi mettre, déposer sur tes épaules. Et je trouvais que voilà, la pop est devenue tellement ce mot fourre-tout qui est un peu désincarné aussi, que j'avais presque envie de revenir au théâtre pour me réincarner en fait en tant que performeur.
Un million d'albums pour votre premier album. Votre deuxième album est le meilleur album de l'année par le Guardian. Votre chanson People I've Been Inside, issue de la Vita Nueva, est une meilleure chanson de l'année 2020. Vous êtes très attendu pour votre tour. Ce succès, ça vous fait peur parfois?
Tant de choses me font peur en ce monde. La cupidité, l'intolérance. Non, oui, bah, en fait, c'est compliqué parce que c'est une question tellement... avec tellement de couches et sous-couches. Il y a l'intimité du chanteur et puis la vie publique. Et puis, moi, j'ai juste eu peur à un moment d'être dépossédée de la beauté de la musique. Et, c'est-à-dire une beauté assez fragile qui est que... J'ai envie de garder un rapport très pur à mon moment d'écriture. Quand je m'assois et que j'écris une chanson, j'ai vraiment besoin de penser qu'elle va me sauver la vie. Et des fois, quand il y a des mécanismes qui s'articulent autour du succès, ça, il y a beaucoup d'enjeux de pouvoir qui rentrent sans même que tu le veuilles dans la conversation. Et j'ai toujours eu très peur que ça abîme ce côté complètement enfantin que j'ai par rapport à la création. Donc j'aurais juste peur de perdre mon envie d'écrire des chansons, mais pour l'instant, ça va. Mais je protégerais ça à tout prix, c'est vrai. Et ça ne me ferait pas forcément faire des choix... très, comment dire en anglais, safe. Enfin, je ne suis pas en train de chercher à
sécuriser, ouais, une carrière ou un parcours.
Bah, pas vraiment. Au nom de la musique, quoi.
Red Car, Les Adorables Étoiles, c'est sorti le 11 novembre prochain. Je sais que Marc Lévy est fan.
Ah bon?
Absolu. Oui.
Ah ouais.
À vos côtés.
Oui. Ah bah, ça me flatte. Ça me flatte vraiment. Je ne savais pas.
Oui.
Bon, vous revenez quand vous voulez, Red Car.
Bah, avec en plus, plaisir. En vinyle, ça me rend encore plus heureux.
Il est bien le vinyle en plus.
Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. On conclut cette émission, comme tous les soirs, par les actualités de Bertrand Chameroy, qui est à ma droite et que je n'ai même pas salué parce que je suis très incorrecte.
Bonsoir. Non, c'est lui aujourd'hui. Bonsoir, à la une de ce 6 décembre, les suites de la compétition la plus passionnante de ce mois de décembre. Et non, je ne parle toujours pas du Mondial, mais du Congrès des Républicains auquel, je le rappelle, ont pu voter des chats. L'affiche est belle. Ciotti versus Retailleau, hein, Bruno, qui a un credo qu'il a rabâché toute la matinée sur LCI.
Bien sûr, je pense que quand on veut rassembler, et je suis rassembleur, c'est important d'en rassembler, je veux absolument rassembler. Je veux rassembler. Je suis rassembleur.
Bruno Retailleau, tellement rassembleur qu'il est d'accord avec tout.
Il y aura une position unique.
Il y aura le
d'accord
il y aura,
sénateurs,
bien sûr.
Y compris si vous perdez dimanche au second tour.
Ah bah, bien sûr.
Vous resterez président du groupe au Sénat dans tous les cas de figure, que vous gagnez ou vous perdez cette...
Pardon ?
Il a soutenu Valérie Pécresse dans la
bien sûr, bien sûr.
Donc la rupture est politique, pas personnelle.
J'imagine, bien sûr, bien sûr.
Et de son côté, son adversaire Éric Ciotti proposait un meeting dans le multiverse. Mi-physique, mi-virtuel, avec ses soutiens en visio. Car Rico est totalement en phase avec son époque. Le problème, c'est que son équipe technique l'est un peu moins.
Alors, qui commence ?
Oh. Qu'est-ce qui se passe ?
Allez-y, les gars.
C'est dur, ça.
Mais si, j'en vois une.
On y va.
Pas beaucoup.
C'est quoi cette idée de meeting ?
Une question de Burt.
Non, ce n'est pas une personne, ça.
Ah non, pardon, de Alain.
Voilà, ça, oui.
Alain ?
Oui ? Alain ?
Alors, Burt. Voilà, ouais. On retrouve Burt.
Oui, retrouvons Burt.
Dans cette question, plutôt.
Oui. Ah là, non, c'est vraiment dommage que la technique n'ait pas suivi, parce qu'il y avait du beau monde dans cette visio Skype d'Éric Ciotti. Il était présent. Celui qui a pris des cours de cadrage avec Jacques Vendroux. La personne qui devait lancer une machine en heure creuse et qui s'était barrée de son écran. Celui qui préférait regarder Brésil-Corée sur beIN Sport. Allez, je m'en fous, on zappe. Celui qui s'approche beaucoup trop près... Ouais, c'est mon grand-père. Salut, papy. Et enfin, celle qui était en all-inclusive à Punta Cana. Mais heureusement, une fois tout ce petit monde réuni, le Skype de Rico Ciotti a enfin pu démarrer.
Laurent, à vous.
Oui, mon cher Apous.
Très bien.
Super bien, oui.
Bonsoir.
Je me poussons.
On ne comprend rien, messieurs, dames. Heureusement, Éric Ciotti a pu compter sur ses plus fidèles soutiens.
Merci à chacune et chacun d'entre vous. Vous pouvez me faire confiance comme je vous fais confiance. Alors, qui commence ?
Heureusement qu'il nous reste les chats. Pas mal. Éric Ciotti qui était l'invité ce matin de Laurence Ferrari, qui, elle, je le soupçonne, est visiblement pro-Retailleau.
Encore deux petites questions sur votre famille politique, puis après on va parler des vrais sujets qui préoccupent les Français.
Voilà, parce que votre petite élection de délégué, on s'en cogne. Dans le reste de l'actu, aujourd'hui, c'était jour de questions au gouvernement à l'Assemblée, avec notamment le gang du bal masqué Ohé Ohé, le député qui prend l'hémicycle pour un studio télé, puisqu'il a des fiches à son nom, comme chez nous. C'est le Maxime Show. Franck Riester qui s'est déguisé en retraité. La situation de chaos à Mayotte ne va pas être considérée comme... Et Babette Borne qui a encore vapoté en scred alors que c'est interdit sous son masque. Voilà. Mais la bonne nouvelle de cette journée à l'Assemblée, c'est que nous avons retrouvé, oui, nous l'avons retrouvé, Astérix. Il a pris un petit coup de pelle, mais il est toujours là et il est en forme.
Qui impacte les systèmes énergétiques de l'ensemble de l'Europe, nous tenons...
Il a des lunettes quand même, non ?
Prochainement, bah, forcément. Mais prochainement, l'affiche du film de Guillaume Canet. Alors, pas en forme, Astérix. Certes, mais plus en forme que Michel-Édouard Leclerc ce matin.
Alors, la journée était longue pour moi. Je suis désolé, je ne sais pas à quelle heure vous avez démarré, vous. Mais...
Toi aussi, désolé. Ouais,
c'est vraiment pour vous que...
C'est sympa.
Que j'ai dit oui.
Pas en forme, mais il ne faut pas trop le chercher quand même.
Pardon, si vous me permettez, vous embrouillez un peu.
Non,
il n'a pas dit ça. Hein. Alors, je ne suis pas d'accord avec cette formulation. Vous voulez refermer les frontières ? Et alors, est-ce que ça s'est passé ?
Alors, attendez.
Est-ce que ça s'est passé ?
Attendez, je suis comme vous, j'ai pas tous les chiffres.
Vous avez l'intéressement et la participation ?
Oui, il y a de l'intéressement de la part, je crois, Frédéric Bianchi.
Vous ne souriez pas ?
Et qu'on puisse. C'est pas possible.
Laissez tomber.
Pas en forme, mais quand même très en forme. En bref, la nouvelle série du moment, c'est le reboot que personne n'avait vu venir. Le reboot de la série Friends, mais produit par Salto.
Ha ha!
I love you too. Vous venez de voir le jingle le plus long de l'histoire de la télévision française. Emmanuel Macron qui rencontrait aujourd'hui le Premier ministre albanais qui n'a pas du tout le même sens des proportions que nous. Regardez ce tapis rouge. La taille du Stade de France. Mais bon sang, mais vous êtes le sosie de Bertrand Renard, des chiffres et des lettres. Vous êtes si grand. Mais je vais pas me laisser faire. Allez, top, combat de poignée de main. Allez. Et mes amitiés, Ariel Boulin-Pratt. Et on referme ces actualités avec de la littérature. Hier, nous étions les premiers à en parler à la télé, car dès qu'une info tombe, l'ABC s'en empare. Francky Vincent a été nommé chevalier des arts et des lettres. Il y a quelques instants, il était l'invité de BFM pour faire honneur à la culture.
Monsieur le chevalier des arts et lettres, bonjour, félicitations.
Félicitations. Distinction. Tout ça rime avec érection.
Il y a même pas eu de bonjour.
Mais non, bah non, pourquoi s'encombrer ?
Qui est tenu jusqu'au bout.
Bien sûr. Oui. Ah, un Francky Vincent en pleine forme qui a même réussi à gêner Roselyne Bachelot. Il faut le faire quand même.
Fruit de la passion, c'est un peu votre standard.
Vas-y, même Roselyne a dansé là-dessus, j'imagine. Vas-y, Francky, c'est...
Elle est plus opéra, Roselyne, mais
vous connaissez.
J'ai pour principe de ne jamais porter un jugement sur les décisions de mes successeurs. Je me dois un devoir de réserve. J'adresse mes félicitations au nouveau chevalier. Et sur ce, je vous quitte pour présenter vos...
Non, vous savez pas.
Voilà, car je suis un petit peu embarrassé par la situation. Et on referme ces actualités toujours sur le sujet Francky Vincent avec cette citation qu'on n'aurait jamais imaginé être prononcée un jour sur BFM TV.
Je lui dis « Ferme ta grande gueule, Hélène, tu pues du cul, le prout, ça pue. »
L'info continue demain. Bonne soirée.
Merci Bertrand, l'actualité était dévancée tous les soirs dans cette à vous. Merci beaucoup à tous les deux d'avoir accepté notre invitation. Merci. À très bientôt, j'espère. Tout de suite sur France 1, un documentaire alimentaire, c'est tous les mardis. Ce soir, consacré à la cuisine mexicaine. Ça ne manque pas de piquant. La cuisine mexicaine qui est la deuxième cuisine du monde la plus consommée en France. Hop, une info comme ça.
Comprends pas ça. En passant.
Et voilà, ne me dites pas merci. Si vous voulez bien vous tourner vers Sébastien pour saluer nos téléspectateurs. C'est dans l'autre sens, Marc. Pour saluer nos téléspectateurs. Merci de nous avoir suivis. À demain pour avoir encore un peu de poésie avec Bertrand. On va en direct. Ciao.
Merci d'avoir écouté ce podcast de France Télévisions. Pour ne rien rater de C'est à vous en audio, vous pouvez vous abonner à tous nos podcasts sur votre plateforme d'écoute favorite dans la rubrique C'est à vous et en vidéo, le replay bien sûr, c'est sur France.tv. À très vite.